Oh, je sais, c'est dur. Hein. Faut supporter. Quelqu'un qui parle sans arrêter pendant une heure. Encore une. Hein, encore une de plus. Bon, j'essaye de mettre quelques vidéos de temps en temps, des trucs qui... C'est un métier du spectacle, en fait, le cours d'amphi. Hein. C'est pas uniquement la transmission de connaissances. Juste, je disais, mes cours d'introduction de l'année précédente, des années précédentes, ou même depuis 2009, hein, une grande partie de mes cours de culture numérique sont disponibles sur Internet, hein, sont pour une large part sur YouTube, sinon sur Canal U. Et donc, si vous vous ennuyez, vous pouvez toujours les regarder. Donc ceux des années précédentes doivent se dire que j'ai un peu changé les choses, n'est-ce pas ? Je n'ai pas répété par rapport à l'année dernière. Bon, voilà, j'essaye toujours de... Bon, il y a des choses qui se ressemblent, hein, forcément. Alors, après avoir fait cette partie d'introduction générale, je voudrais me concentrer un peu sur le type de culture qui existe à l'intérieur du numérique et de l'Internet, qui, je pense, est une pop culture. Hein. C'est une culture populaire qui arrive par en bas. De ce point de vue, moi, je suis plutôt optimiste, hein, sur l'usage culturel qui peut être fait de l'Internet. On a vu plein de nouvelles méthodes, par exemple, les gens qui font du sous-titrage, les fanfictions, les gifs animés, les mèmes. Enfin, on a vu plein de choses apparaître qui forment une espèce de création culturelle à l'intérieur du système Internet. Une création qui, encore une fois, c'est une pop culture, donc elle est appuyée sur l'industrie culturelle principale aujourd'hui, c'est-à-dire le jeu vidéo, hein, beaucoup. Et puis, avec des outils qui permettent à des créateurs débutants de diffuser, alors pas forcément au monde entier peut-être, mais des fois pas grand monde en réalité, mais bon, ça permet quand même de diffuser des pratiques de création amateur. Et donc, là aussi, élément très important, c'est un redoublement de la création amateur. Ça développe ce que Henry Jenkins appelle la culture participative, c'est-à-dire une culture dans laquelle on n'a pas des producteurs et des consommateurs, mais on a un type de relation qui se crée autour d'un média ou autour d'un document. Voilà. Donc c'est des relations, par exemple, entre les fans et les producteurs, où on voit de très nombreux fans participer quelque part aux super productions qu'on voit. On voit aussi que cette culture participative développe des compétences culturelles nouvelles. Hein, c'est-à-dire que on prend des produits industriels, mais on va les remixer, les traficoter, les faire des poursuites, des fanfictions, on va les découper, on va changer la bande-son, enfin, ou au contraire, on va prendre une bande-son et on va mettre autre chose comme image, et ainsi de suite. Donc, cette capacité à partir de la production culturelle industrielle, je veux dire par là, qui se vend, qui est sur le marché de la culture des artefacts culturels, on va créer une dynamique, en fait, une dynamique de groupe. Là aussi, c'est important. Et la définition que met Henry Jenkins de la culture participative, c'est ce qui va, et ça, c'est très important, c'est son premier point, diminuer la frontière entre l'expression artistique et l'engagement civique. Alors, vous allez voir dans tout ce que je vais vous montrer qu'il y a là quelque chose qui est devenu poreux. L'engagement civique, c'est donc l'engagement pour la société. Qu'est-ce que je fais pour la société? Comment je pense à la société de demain? Comment j'agis? Et j'agis par la culture. Et donc, principalement, je m'exprime. Et cette expression artistique fait partie de ma capacité à vouloir faire de l'engagement civique. Le deuxième, c'est on s'appuie sur les outils, mais on partage. Le terme de partager est très important. Et il n'a pas le même sens que le terme « partager » quand il est utilisé par les médias sociaux. Pour eux, « partager » veut dire « rediffuser ». Vous rediffusez ailleurs. Hein. En culture participative, « partager », ça veut dire que d'autres vont pouvoir s'en emparer et le modifier. Bon, c'est une culture dans laquelle les plus expérimentés aident les novices. Donc ça aussi, on a un élément assez important, c'est une auto-formation horizontale, une formation de groupe horizontale complètement l'inverse, en fait, de ce que je pratique ici, où je vous déverse que mon savoir et bah, vous en faites ce que vous voulez dans votre tête, mais vous êtes dans situation contrainte. En culture participative, c'est au contraire de l'aide horizontale. Ça construit, ce faisant, ça va construire des liens forts entre les acteurs. Et là, on reboucle sur le premier terme, la production artistique participe de l'engagement civique. Alors, première règle de la culture Internet, de la pop culture Internet, c'est l'humour et le détournement. C'est-à-dire, si vous faites de la culture triste, c'est pas le bon média. Voilà. Donc, il va falloir toujours trouver une manière de... Alors, bon, Simone Biles, la gymnaste, qui fait une déclaration féministe en disant « Non, je ne suis pas le prochain Usain Bolt, je suis juste la première Simone Biles. » Donc voilà. C'est sur l'image d'à côté, prendre à contre-pied le discours sur l'ensauvagement et autres bêtises du même genre en disant « Sur ces deux photos, laquelle contient le plus de personnes qui ont affaire à la justice ?» Je vous laisse deviner. C'est la réponse de Greta Thunberg à Donald Trump. Donald Trump, donc elle fait un discours à l'ONU qui, quand même, est assez pesant. Je ne sais pas si vous l'avez jamais vu. Il arrache des larmes sur l'avenir de la planète. Et Donald Trump lui dit « ça m'a l'air d'être une très jeune fille qui est heureuse et qui regarde l'avenir avec... » de manière brillante, et etc. Et Greta Thunberg se sert immédiatement de cette phrase pour en faire sa passe-phrase, enfin sa définition dans Twitter. « Je suis une very happy young girl ». Voilà. Donc c'est cette logique du détournement qui est hyper présente dans toute la culture numérique. C'est ce qu'on appelle les mèmes. Les mèmes, le terme date de 1976 par Richard Dawkins, qui était un biologiste, en fait, et qui dit que les idées se transfèrent un peu comme se transfèrent les gènes, c'est-à-dire en se modifiant, en s'adaptant, hein, là aussi tout le temps. Et donc, on a des mèmes. La chercheuse Limor Schiffman, qui a beaucoup travaillé sur les mèmes, dit qu'en fait, il y a trois grandes caractéristiques. C'est que les mèmes, c'est je reprends la même forme, le même contenu, mais à chaque fois de manière... légèrement différente. Quand je crée moi-même un mème, j'ai connaissance du fait que je suis qu'une personne dans la chaîne de tous ceux qui vont utiliser le même mème. Et la circulation sur Internet permet l'imitation. Et c'est vrai que la culture, on apprend toujours mieux par imitation. Hein, les peintres ont toujours commencé par imiter ceux qui les précédaient avant de réinventer le monde. Alors, vous avez ce même « Deal with it »,« Faites avec », qui est le chat avec les lunettes qui tombe dessus. Et en dessous, vous avez Alexandria Ocasio-Cortez, députée membre du Congrès des États-Unis, qui, c'est une danse qu'elle avait faite quand elle était étudiante, et que les conservateurs américains ont dit « vous trouvez ça sérieux, vous, d'avoir une députée qui danse aussi bien ?» Et elle leur répond « Deal with it, faites avec, hein, débrouillez-vous les gars ». Voilà, donc c'est toute une logique comme ça, de reprendre des choses en prenant toujours l'humour et le contre-pied par rapport aux critiques qui sont portées. J'aime beaucoup celle-là parce que souvent les mèmes se réduisent à un hashtag qui va servir de point de référence. Tous ceux qui vont participer de la fabrication d'un autre mème sur le même type vont utiliser le même hashtag. Et j'aime bien celui-ci qui s'appelle « If they gun me down », s'ils me descendent, quelle va être la photo de moi que vont mettre les journaux à la une ? Et donc, à chaque fois, c'est une personne qui est et la même personne bien habillée. Et devinez quelle est la photo de lui que les médias réussiront à trouver. Voilà, « If they gun me down ». J'en parlerai tout à l'heure de « Black Lives Matter ». Alors, il y a d'autres formes de mèmes. Le « Getty Challenge », c'est beaucoup développé pendant la période de confinement. C'est à l'initiative de deux Hollandaises qui ont créé un compte sur Instagram qui s'appelle Mon hollandais n'est pas très bon, je vous le laisse dire vous-même. C'est entre art et quarantaine, quoi. Où l'idée, c'est de prendre une photo de soi qui reconstruit un tableau traditionnel. Donc là, on a toute une série d'exemples où à chaque fois, on a le tableau original et la photo. Le tableau, la photo, etc. etc. Ou le contraire, d'ailleurs. Voilà. J'aime beaucoup ces deux-là. Cette création artistique, c'est le portrait de Barack Obama qui est dans la galerie des portraits des présidents des États-Unis. Et ça, c'est une personne qui reprend le même thème. Et c'est ce tableau repris avec, bien évidemment, Netflix, etc. Donc voilà. Donc on a vu pendant le confinement toute une série d'usages culturels de l'Internet comme ça qui se sont développés. Les challenges, c'est aussi quelque chose d'important, hein, particulièrement l'idée de pouvoir exister collectivement en portant, en réalisant un challenge. Après, il y a les challenges idiots, les challenges dangereux à éviter. Puis après, il y a des challenges intéressants comme, à mon sens, celui-ci. C'est aussi l'usage de l'humour en manifestation. Là, c'est une manifestation en Angleterre. Hein, où, donc voilà. Et le fait qu'on a une relation entre la culture et les mouvements sociaux. Je vais vous donner un exemple actuel d'aujourd'hui. Bon, vous attendez peut-être la parution en film de Mulan, n'est-ce pas ? Hein, bon, on vous a bien chargé la bête que ça va être un grand événement. Alors, vous savez d'une part que Mulan va être distribué sur Disney+. Et pas en salle. Donc là, on change radicalement le processus de ce qu'on appelle la chronologie des médias. Mais on va changer aussi ce moment où un film paraît, il est en salle, et donc c'est là qu'il va accrocher un public ou pas, c'est là qu'on va en parler. Et bien, ce moment-là est en train de disparaître. On va faire un lancement sur, alors en l'occurrence, la plateforme Disney+, mais Netflix participe de la même manière. Le problème, c'est que Mulan, vous savez, c'est cette jeune fille qui se déguise en homme et qui rentre dans l'armée pour remplacer son père qui est malade et qui va aller combattre les barbares. Le problème, c'est que l'actrice elle-même a fait des déclarations qui vont à l'encontre du mouvement tel qu'il se passe à Hong Kong et que le film a été tourné dans le Xinjiang, c'est-à-dire là où vivent les Ouïghours, dont on sait maintenant sur la planète, que c'est un immense camp de rééducation pour une population tout entière. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui se fait contre Mulan, contre le truc. Là, en l'occurrence, c'est des Hongkongais hein, qui disent qu'il faut appeler à boycotter Mulan. Donc, vous voyez qu'il n'y a plus... Quand Harry Jenkins disait... L'action civique et la production culturelle en culture participative, ça marche ensemble. Voilà un des exemples. J'aime beaucoup celui-là, c'est les réseaux des amateurs de K-pop. Quelques-uns parmi vous ? Non, j'y crois pas. Vous mentez devant votre prof ? Ah. Bon, les réseaux de K-pop sont justement des réseaux qui ont l'habitude de se coordonner pour faire des actions, que ce soit des actions... pour promouvoir la sortie du dernier BTS, ou que ce soit des actions collectives de charité. Hein, beaucoup de groupes qui, par exemple, la BTS Army aux États-Unis a récolté en un mois, au mois de juin, $1 million pour soutenir Black Lives Matter. Ouais. Eh bien, ces réseaux se sont mis à agir dans la société. À Dallas, la police demandait que les bons citoyens envoient des photos de manifestations pour repérer les manifestants. Et les fans de K-pop ont envoyé des fancams, c'est-à-dire des morceaux de films pris dans la salle, pris par ça sur les groupes de K-pop. Et donc, ils ont noyé le système de la police de Dallas qui a dit « nous avons des difficultés techniques, on ne peut plus faire fonctionner ». Vous savez aussi que sur Twitch, les réseaux de K-pop ont acheté des places, ont réservé des places pour le premier meeting de Trump, et bien sûr, ils ne sont pas venus, et donc ce qui fait que la salle était à moitié vide. Donc voilà. Donc c'est bien voir là cette relation entre le caractère de groupe, même de la culture industrielle, parce que s'il y a bien une culture industrielle, c'est la K-pop, hein. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, mais même ça, ça produit un changement, notamment aux États-Unis, où un grand nombre de fans de K-pop sont en fait des Africains-Américains. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est un certain Thomas qui va... je vais baisser un peu. Qui va mettre sur Internet un morceau de musique avec un texte et qui appelle les gens à... soit le chanter pour récupérer du son et faire l'impression que c'est un chœur, soit modifier le texte, etc. Et donc, il va y avoir de fil en aiguille la constitution à Hong Kong d'un hymne national hongkongais opposé à l'hymne national chinois, qui va ensuite être repris dans un clip de grande qualité derrière, et finalement, qui va devenir le point de ralliement des milliers ou millions de manifestants à l'intérieur de Hong Kong. Donc là, on voit bien toute cette dynamique qui s'est créée sur Internet, mais qui a dépassé, qui est intervenue ensuite dans le monde réel. Alors attention, je vous ai dit tout ça, mais il ne faut pas croire qu'en face, les pouvoirs en place ne bougent pas. Les pouvoirs en place, ils se sont fait un peu doubler en 2011 dans ce qu'on a appelé les printemps arabes. Et ils n'avaient pas bien compris comment marchait l'Internet, et donc ils se sont fait dépasser par les événements. Pour les pouvoirs en place, maîtriser quelque chose, c'est maîtriser de la géographie. C'est une armée, c'est la police, c'est bloquer des Russes, etc. Ils n'arrivaient pas vraiment à maîtriser ce qui se passait dans tous ces messages, et y compris l'attitude de Moubarak, qui à l'époque était le dictateur d'Égypte. Son attitude a été de couper Internet. Oh là là, malheureux. Malheureux. Ben, tous les gens qui ne pouvaient plus avoir les vidéos, ils allaient sur place pour voir comment ça se passait. Donc, bilan, la seule chose qu'il y a eu, c'est deux fois plus de monde. Voilà. Donc, et puis, en plus, l'économie égyptienne dépendait de l'Internet. Donc, elle était en train de s'effondrer. Donc, ils ont remis Internet. Ça ne marche pas. La censure par blocage ne marche plus. Par contre, les pouvoirs ont beaucoup compris comment on pouvait répondre à cette culture participative, c'est-à-dire cette capacité des gens à se mobiliser, à mettre culture et mouvement civique dans le même sac. Il suffit de noyer le poisson. Et donc, on va remplacer le blocage de la parole par le fait qu'on va noyer le poisson. Et noyer le poisson signifie que la population en face vont se résigner, vont dire « on ne peut rien, de toute façon, on fait une manifestation, on est des milliers ». Personne n'en parle. Donc, pourquoi le faire, etc. Donc, provoquer plutôt de la résignation, même des gens qui vont rester opposants au pouvoir en place, mais qui vont se résigner. C'est détourner l'attention. Il est drôle, non ? Ce que je raconte, en tout cas, il est plus drôle, le petit singe, que des bêtises que je raconte. Donc, voilà. C'est détourner l'attention. Il ne s'agit plus de produire des idées, voire même de réfuter les idées des autres. Il s'agit de faire en sorte qu'on parle d'autre chose dans les médias sociaux. C'est la fameuse forme moderne du pain et du cirque, panem et circenses. Voilà. C'est aussi, à mon sens, le rôle social du complotisme. Le complotisme sert toujours à détourner l'attention. C'est-à-dire, les faits eux-mêmes ne suffisent pas. C'est qu'il y a un complot derrière, c'est qu'il y a une cinquième colonne, c'est qu'il y a des gens qui savent très bien qu'on manipulait ça, quand ce n'est pas les Illuminati et les reptiliens. Voilà. Tout ça, c'est l'idée que les faits ne suffisent pas. Il y a toujours quelque chose qui se passe derrière. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Comment on peut réagir ? Puisque les faits, il y aura toujours quelque chose d'autre derrière. Donc, le complotisme est en fait le dernier allié des pouvoirs en place. C'est la capacité des pouvoirs en place à se maintenir. Alors, il y a des gens qui ont très bien compris qui payent des armées de désinformateurs. On est rentré dans un stade où c'est devenu, là aussi, une influence industrielle. Il y a une industrie de l'influence. En Chine, on appelle ça l'armée des 50 cents. il touche 50 cents de yens, hein, donc ça ne fait pas grand-chose à notre échelle, mais cumulé, à chaque fois qu'ils produisent une information qui va servir à détourner l'attention. Par exemple, quand c'est l'anniversaire de la place Tiananmen, on va parler de tas d'autres choses, on va noyer en fait les réseaux sous autre chose, de manière à ce que l'information sur Tiananmen ne passe pas. Bon, de la même manière, il y a la Troll Army, l'armée des trolls de Russie, qui intervient, paraît-il, dans la campagne de Trump. Ça n'a pas réussi à vraiment être prouvé, mais ça semble suffisamment notoire, ou dans la campagne du Brexit. Alors, we are the Internet. Là aussi, ce qui se passe avec Internet, c'est le réveil de quelque chose de très ancien qui s'appelle les communs. C'est-à-dire des gens qui, de manière horizontale, par eux-mêmes, vont essayer de fabriquer de la liberté à l'intérieur du système. L'origine, peut-être, de ça, le plus grand mouvement de ce type, c'est le mouvement des logiciels libres, avec ici Richard Stallman, qui l'a fondé. Bon, il était jeune à cette époque-là. Donc, les logiciels libres, c'est l'idée que, comme je vous disais au début, toute production va passer par un moment numérique. Donc, va être crypté, encodé, manipulé, tracé, enfin, tout ça. Si c'est un logiciel libre qui le fait, alors on va avoir une espèce de garantie que ce n'est pas fait dans le dos de la liberté de l'usager. Pas parce que vous allez ouvrir le code et regarder comment c'est fait. Non, parce que d'autres développeurs, d'autres spécialistes vont ouvrir le code et regarder comment c'est fait et nous dire « oui, ça va, vous pouvez avoir confiance ». La confiance, c'est quelque chose de très important dans le monde du logiciel. Je sais pas si vous avez remarqué, votre ordinateur, votre téléphone vous dit « hello, cette nuit, vous restez branché, je me mets à jour ». Ah, vous faites confiance, hein ? Vous avez intérêt, d'ailleurs, vous n'avez pas le choix. Donc, on est là dans une situation compliquée. Donc, le faire avec des logiciels ouverts, c'est un élément essentiel donc de la liberté numérique. Après, l'autre élément, c'est les publications coopératives, dont l'exemple modèle, c'est Wikipédia, une encyclopédie écrite par les gens, pas par des spécialistes, quoique beaucoup de spécialistes maintenant écrivent dans Wikipédia, mais avec des règles de fonctionnement, hein, c'est pas tout le monde écrit n'importe quoi. Il y a des règles de fonctionnement, il y a des critères, il y a des gens qui vérifient systématiquement à chaque fois qu'il y a un nouvel article, qui vérifient à chaque fois qu'il y a un article qui a été modifié, enfin bon, qui suivent un peu la production, mais elle est coopérative par en bas, ce qui permet à Wikipédia d'être aujourd'hui la plus grande encyclopédie du monde et celle dont vous ne vous servez jamais, je sais, parce que c'est interdit, mais à part ça, vous vous servez tous les jours, ne serait-ce que pour savoir les dernières productions, vos fans favoris, ça remplace aussi Gala et les journaux People. Vous croyez que c'est récent ? En fait, c'est dès le début du web qu'on a eu la création de systèmes coopératifs. Celui-là s'appelle le Web Museum. Enfin, à l'origine, il s'appelait le Web Louvre. Il a été créé en 1995. Il n'a pas pu continuer à s'appeler Web Louvre parce que le Louvre a porté plainte sur sa marque qui était détournée. Et l'idée, c'était de demander aux gens de scanner, à l'époque, ce n'était pas si simple que ça, des photos d'œuvres de peinture connues, de les envoyer dans un serveur FTP aux responsables du Web Museum et qui les mettait en ligne ensuite pour partager toute une histoire de l'art en fait collective qui aurait été faite. Juste, je vous laisse la vidéo pour vous rappeler qu'on vient de loin. Ça, c'est l'Internet en 97 ou 96. C'était pas très rapide, on n'avait pas beaucoup de présentations. Et je vais juste vous laisser voir comment on chargeait une image entière de la chapelle Sixtine pour vous donner une idée de l'amélioration technique qui a pu se passer. Allez, vas-y, vas-y. Et... Bon, vous voyez, ça va pas très vite. Ah, la voilà. Voilà, regardez comment on chargeait une image. graphique. Par petits bouts. Voilà. Donc là, vous avez quelque chose comme ça maintenant. Vous avez jeté l'application avant même. Derrière Wikipédia, il y a toute une série de photos, d'images, parce que souvent, c'est aussi la méthode la plus simple avant d'écrire des articles, d'apprivoiser. Là aussi, cette espèce de formation horizontale dont j'ai parlé tout à l'heure, d'apprivoiser le système Wikipédia en mettant des photos de tous les monuments des plus célèbres, comme ici, c'est le tribunal de Berlin, aux plus anonymes. On a la même chose avec OpenStreetMap, qui est une cartographie participative où on peut non seulement ajouter de l'information, genre nom des rues, mais on peut aussi s'en servir. Là, je crois que c'est une liste des jardins partagés autour de Berlin. On peut rajouter soi-même des points d'intérêt sur des cartes. La carte, vous savez, la carte d'état-major, c'est un instrument de pouvoir, la carte. Donc le fait qu'on donne aux gens les moyens de construire des cartes thématiques, c'est leur redonner aussi du pouvoir dans les mains. Nous avons les licences Creative Commons qui disent « J'ai créé une œuvre, mais je ne suis pas forcé de vouloir la mettre sur un marché industriel. Je veux bien que vous la redistribuiez, je veux bien que vous la modifiez, je veux bien que... Mais en même temps, je ne veux pas que vous fassiez de l'argent dans mon dos, donc si vous la vendez, ben, on négocie. » Voilà. Donc c'est un système de licence. Une licence, c'est un contrat. C'est un contrat privé. Mais c'est un contrat privé qui n'a pas besoin d'être signé par les deux partenaires, qui est admis dès qu'on s'en sert. Voilà. Donc il suffit que d'écrire en bas d'un texte, d'un document, d'une image, c'est en licence Creative Commons, pour que tous les autres disent « Ok, je peux m'en servir ». Et puis, il y a le domaine public, l'existence du domaine public, c'est-à-dire de tout ce que les gens ont mis à disposition de tout le monde ou de ce que l'histoire a mis à disposition de tout le monde, c'est-à-dire les œuvres dont l'auteur est décédé depuis plus de 70 ans. Voilà. C'est une source de créativité. Par exemple, ça, c'est le Rijksmuseum, le grand musée d'Amsterdam, qui a un laboratoire où ils ont créé donc ça. La musique est une licence Creative Commons. Et puis, à partir d'œuvres de contenu dans le musée, ils ont créé ce clip-là. Et lui, c'est le premier à avoir augmenté le domaine public. Lui, c'est Tim Berners-Lee. On était jeunes à l'époque. C'est l'inventeur du web. C'est lui qui a inventé le langage HTML, le protocole HTTP, et le fait de nommer chaque document par un URL. À l'époque, maintenant, on appelle ça un IRI. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est battu à l'intérieur de son institution, qui s'appelait le CERN, pour qu'en avril 1993, celle-ci accepte de dire « Nous ne revendiquons aucun droit d'auteur sur les technologies du web. C'est libre, c'est domaine public. Allez-y, servez-vous. » Et c'est comme ça que le web a démarré. C'est-à-dire comme quelque chose qui appartenait à tout le monde d'emblée. Donc je crois qu'on ne remerciera jamais assez Tim Berners-Lee d'avoir fait ça, même si ceux qui remercient plus que nous encore, c'est peut-être Apple, Google et compagnie. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être cette vidéo, mais je l'aime beaucoup. The day we celebrate the first glorious anniversary of the information purification. History, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of a contradictory force. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with them.
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Alors, cette vidéo marque un point de bascule. Elle représente vraiment un changement radical dont parlait Steve Jobs tout à l'heure. Avant l'informatique, c'était tous ces personnes assises en costume de flanelle grise, obligées de servir une machine qui les dépassait. Avec le Macintosh, donc la souris, l'interface graphique, rendue accessible au grand public, c'est au contraire la seule personne en couleur qui est là, qui va détruire cette informatique de surplomb et créer une informatique de liberté. Et donc on dit, janvier 84 ne sera pas la même chose que le livre 1984. Alors, c'est vrai, à l'époque, l'informatique personnelle, donc le Macintosh, mais même le PC, était associée à de la liberté, des outils qui étaient mis dans les mains de chacun, contre les outils centralisés qui existaient auparavant et qui constituaient les grandes bases de données. Pour éviter leur création, en France, on a créé la CNIL, hein, donc pour protéger les données privées contre ces grandes bases de données. Le problème, c'est que maintenant, les gens disent qu'en fait, 1984, ce n'était pas censé être un manuel d'instruction pour le développement des systèmes informatiques. C'est-à-dire qu'on a basculé là. Et là, c'est Mark Zuckerberg passant à côté de ces gens hypnotisés dans leur réalité virtuelle. Si vous vous rappelez de la photo tout à l'heure de ces hommes en costume de flanelle grise qui regardaient Big Brother sur le grand écran, nous avons la même photo. Nous avons la même photo. Et là on s'aperçoit qu'il s'est passé un basculement, à mon sens, assez dangereux. Un basculement qui est un renforcement d'une informatique qu'on ne maîtrise plus, qu'on ne contrôle plus, et qu'on appelle intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est en fait toutes les méthodes qui permettent d'apprendre sans vraiment savoir ce qu'on apprend. Alors, il y a plusieurs voies. Hein. Il y a la voie de ceux qui vont stocker des relations entre les mots, entre les sens. Et puis, il y a la voie de ceux qui vont utiliser les probabilités de co-occurrence de mots, de lettres, de choses comme ça. Bon, vous allez, je pense, en licence humanité numérique, apprendre beaucoup de choses là-dessus. Mais globalement, c'est des statistiques, ce que montre bien le petit dessin. On appelle l'intelligence artificielle, en réalité, une utilisation massive des statistiques. Mais avec un changement, on ne décrit plus, on ne fait plus des statistiques descriptives, mais des statistiques prédictives. Et ça, c'est lié à la grande masse de données. À partir de la grande masse de données, on va pouvoir essayer de prévoir des comportements, prévoir la viralité d'une vidéo, prévoir... Enfin, on est dans l'ordre du prédictif. Alors, le fondateur, peut-être, de l'intelligence artificielle, c'est Alan Turing. Alan Turing, c'était ce mathématicien anglais qui, en 1936, écrit un article scientifique qui va rendre possible, en fait, le calcul numérique informatisé, ce qu'on appelle la machine de Turing, qui est un système complètement abstrait. Mais surtout, pendant la guerre, il va appliquer ces méthodes mathématiques pour décrypter les messages envoyés par Enigma, la machine à crypter des Allemands. Et quand il arrivait à décrypter les messages, ben, il arrivait à lever le blocus de l'Atlantique, c'est-à-dire à empêcher les sous-marins allemands de détruire l'approvisionnement de l'Angleterre par l'Atlantique. Au lendemain de la guerre, il n'a pas eu le droit de publier, il n'a pas eu le droit de parler de ce qu'il avait fait. C'était un espion, membre du MI5. Et il était homosexuel. Et donc, il a été condamné. Et après sa condamnation, il a croqué une pomme dans laquelle il y avait du cyanure. Et donc, il s'est suicidé comme ça. Et la légende veut que la pomme croquée de Apple soit une référence à la pomme croquée de Alan Turing. Il a fallu quand même attendre 1970 pour qu'il soit reconnu, qu'il avait été un héros de la nation, et les années 2000 pour qu'il soit pardonné de sa condamnation. Alors, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les statistiques, se remplace par ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond. L'idée, c'est comme on a beaucoup de données, on donne à une machine énormément un jeu de données. On lui donne des milliers de photos de chats, des millions de photos de chats, tout ce qu'on veut. Puis après, on lui donne n'importe quelle photo, on lui dit est-ce que c'est un chat ou pas un chat. D'ailleurs, vous participez à l'apprentissage des machines quand vous remplissez, quand vous cochez les cases, là. Est-ce qu'il y a des taxis, est-ce qu'il y a des ponts, est-ce qu'il y a des trucs comme ça. Vous participez à apprendre à une machine qui va ensuite savoir reconnaître. Le problème, c'est que tout ça, ça dépend fondamentalement du lot de données qu'on donne à l'origine. Et donc, il y a des biais. Par exemple, récemment, il y a une machine qui permet, à partir d'une photo floue, de créer une photo lisse. Le seul problème, c'est que le jeu d'apprentissage a été fait à partir de Flickr, de photos sur Flickr, majoritairement des blancs. Et donc, vous prenez cette photo et puis il a blanchi. Voilà. Donc, il y a un biais dans l'apprentissage qui est lié au type de lot d'informations qu'on va lui donner au début. Et c'est vrai dans tous les domaines. Ce qui fait que, si vous faites un système prédictif qui cherche à savoir est-ce qu'il va y avoir un crime dans la rue, les rues où il y a déjà eu des crimes vont forcément être celles où il y en aura un demain. Et donc, on va renforcer la ségrégation. Si vous faites un système pour prévoir la réussite scolaire, vous avez de grandes chances de penser qu'il y a des lycées où ils réussissent mieux que d'autres, parce que dans le passé, c'était comme ça. Et donc, les capacités individuelles ne sont plus jugées en tant que telles, mais celles de la régularité statistique. C'est contre ce phénomène-là que les étudiants anglais se sont mobilisés autour du thème « Fuck the algorithm ». Voilà. Alors, on cherche aujourd'hui à aller plus loin, c'est-à-dire essayer d'être capable de lire les intentions, par exemple avec des bracelets qui calculent votre pouls, etc., avec la société de Elon Musk qui veut brancher sur le cerveau directement pour capter les ondes cérébrales, pour pouvoir commander des machines. Ils expérimentent ça sur des tétraplégiques. Enfin, bon, voilà. Donc là, on a une évolution qui est dangereuse, qui est d'autant plus dangereuse que dans la réalité, ça ne marche pas. Et on a un exemple concret, c'est tout ce qui est de la modération des médias sociaux. Très clairement, si vous permettez à 2 milliards de personnes d'écrire des choses sur un grand média social comme Facebook, 2 milliards de personnes, ce n'est pas tous des génies de la tête, c'est des pervers, c'est des terroristes, tous ceux-là vont écrire. Et il y a besoin de protéger le reste de la société de cette perversité qui peut s'exprimer à l'intérieur du média social. Donc on appelle ça la modération. Il y a des milliers de personnes qui modèrent Facebook. Ça ne marche pas tout seul. Notamment, c'est des gens qui sont très sous-payés dans des pays à faible revenu, comme à Manille, et qui, n'ont pas forcément non plus tous les codes culturels tels qu'ils existent dans plusieurs sociétés. La réponse qui est faite à chaque fois, c'est oui, on va mettre plus d'intelligence artificielle pour être capable de mieux modérer, donc de mieux protéger la société dans les médias sociaux. Mais systématiquement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le contexte, nos capacités à nous, on ne fait pas de l'apprentissage profond par répétition. Il y a très longtemps qu'on a arrêté de faire répéter les élèves de primaire parce que ce n'est pas comme ça qu'on apprend le mieux, c'est en comprenant. Et donc, on va être dans un problème de ce type. Je regarde l'heure, oui, pour aller très vite. Juste deux mots sur l'économie du numérique. Donc, vous savez que Apple, au mois d'août, a passé la base des 2000 milliards de capitalisation boursière. Ça, c'est pour vous dire qu'en fait, l'économie du numérique, qu'on essaie de nous dire comme indépassable, on peut pas la bouger, elle est appuyée sur deux grandes règles, enfin, trois clients. Le premier, c'est vous. Vous servez d'une machine, vous servez d'un média social, etc. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on a capté votre attention, mais ce n'est pas vous qui payez. Donc, vous ne pouvez pas être considéré vraiment comme un client. Le client, c'est le publicitaire qui va payer. Donc, c'est ce qu'on appelle un marché biface. Mais il y a un deuxième marché, qui est un marché de l'image de marque. Et l'image de marque, c'est ce qui va permettre, en fait, la capitalisation boursière. Les gens achètent ou vendent les actions, font monter ou descendre le cours en fonction de l'image de marque. Et donc, les entreprises, notamment quand elles sont jeunes, que ce sont des start-up, essayent de développer une image de marque qui va leur permettre de rentrer en bourse, donc d'avoir un marché de leurs actions et qui va aller à la hausse. Voilà. J'accélère tout ça, je saute. Je voudrais vous parler un peu de la question du travail. Aujourd'hui, se développe la peur du grand remplacement. On va remplacer les métiers existants par des robots, des machines, de l'intelligence artificielle. J'y crois pas trop. Par contre, ce qu'on voit réellement se passer sous nos yeux, c'est le remplacement du travail salarié par ce qu'on appelle la gig economy, c'est-à-dire le travail à la tâche. Retour complet, le travail à la tâche a été... L'interruption du travail à la tâche a été une des grandes victoires ouvrières au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Moi, je pense qu'on voit se développer ce que j'appelle une nouvelle domesticité. Et ce qui est intéressant, je vous invite à le faire, c'est de regarder toutes les publicités. Les publicités qu'on voit se développer, par exemple, autour des services de livraison. Là, les exemples de Uber Eats. Donc qui va rentrer en bourse, donc on va croquer son action. Le service là de... écoutez, vous avez prolongé le bronzage parce que quelqu'un va venir nettoyer votre appartement. Et dans cette nouvelle domesticité, il n'y a pas de relation... si vous embauchez une femme de ménage, vous l'embauchez, vous payez un salaire, vous allez lui payer des vacances, vous avez toutes les règles sociales qui existent, puis vous allez la connaître, vous allez lui donner la clé, etc. Là, ça se fait par l'intermédiaire d'une plateforme. Or, il y a une règle psychologique, quelque part, qui est très bien montrée par un chercheur qui s'appelle Bruno Latour, qui dit que quand on a acheté quelque chose sur un marché, on est dédouané de la responsabilité éthique qu'on a vis-à-vis de ce qu'on a acheté sur ce marché. C'est-à-dire... nous sommes tous là aujourd'hui contre le réchauffement climatique, contre l'exploitation des enfants, etc. Mais ce que nous achetons, on l'a acheté sur un marché, on n'est pas censé savoir si ça a été fait ou pas par un enfant, si ça a provoqué ou non du réchauffement climatique, puisque c'est censé être réglé dans l'acte d'achat. Et c'est un truc psychologique qui est très très fort, mais qui aussi nous permet de continuer à vivre. Hein. Si on devait se poser des problèmes métaphysiques à chaque fois qu'on achète un t-shirt, ça serait difficile. Voilà. Les nouvelles plateformes, en créant cette nouvelle domesticité, nous dédouanent de toute responsabilité éthique vis-à-vis des gens. Alors, ça, c'est la campagne de Noël 2018 entre Uber Eats et Coca-Cola.
Joyeux Noël!
Merci.
One Christmas night, not just one day, I live forever. Oh, I'm here forever.
Bonsoir. Joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Donc, le message, si vous travaillez le soir de Noël, on vous offre gratuitement un repas. Ouais. Et le coursier, qu'est-ce qu'il faisait, lui, le soir de Noël ? Et on est dédouané de la relation avec le coursier. Donc, l'autre, c'est vous êtes hyperactif, vous courez, donc vous avez besoin d'un service. Votre activité mérite la nouvelle domesticité derrière qui va se mettre en place parce que vous, vous êtes actif. C'est on crée, en fait, jusqu'à présent, la domesticité était associée aux très riches. Là, maintenant, c'est les classes moyennes. On vise les classes moyennes, vous, étudiants, moi, prof, etc., comme devenant des acteurs ayant une nouvelle domesticité, mais via un système qui me dédouane de toute responsabilité. Pareil, c'est le fait que ces plateformes cherchent principalement à avoir des nouveaux intervenants, des gens qui vont travailler. Ça, c'est les publicités de Uber quand il s'est lancé, c'est-à-dire quand il demandait à des gens de faire quelques courses le soir, etc., mettre Uber dans les épinards. Hein, voilà, donc je fais ça quand je veux, comme je veux, etc. Cette logique de la liberté qui remplace en fait le lien de subordination, qui s'appelle le travail salarié, par un contrat. Mais un contrat, ça veut dire pas de sécurité, d'assurance maladie. Et puis ça veut dire que Uber n'a même pas la responsabilité de fournir du travail. Et il peut changer les règles du contrat, comme il le fait régulièrement, en baissant le prix auquel il va payer celui qui travaille pour lui, en utilisant des méthodes de psychologie comportementale pour le faire travailler plus, etc. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais il y a là quelque chose. Il y a d'une part la création de gens qui vont être des appelants de la nouvelle domesticité, et d'autre part la déprotection des travailleurs qui vont être ces nouveaux domestiques. Alors ça m'amène à la conclusion. J'ai fait une présentation générale, parlé des nouvelles cultures qui émergeaient, fait un peu de l'histoire et des basculements qui ont pu avoir lieu sur Internet. Mais finalement, la chose vraiment importante, c'est que nous avons un système où la fabrique du système est invisible. Elle développe de l'invisibilité. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière ? Comment des gens peuvent devenir aussi riches que les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, alors même que ce sont les usagers qui produisent la majeure partie de l'information sur laquelle ils font leur richesse, etc. Quelles sont les formes d'invisibilité qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qui se passe dans les calculs ? Ça, c'est une première situation. Une deuxième situation, c'est qu'on a cru que c'était fini la géopolitique, qu'on allait avoir la déclaration d'indépendance du cyberespace. Et ce qu'on voit arriver aujourd'hui, c'est les bons vieux combats industriels entre l'Internet chinois et l'Internet américain, avec la volonté de bannir TikTok, de bannir WeChat aux États-Unis, la réponse qui interdit Facebook en Chine, et ainsi de suite. Donc on a un retour de la géopolitique, y compris en termes presque militaires, puisqu'il y a des armées qui interviennent sur les médias sociaux ou sur les systèmes informatiques des gens d'un autre pays. Donc ce cyberespace qui aurait dû être indépendant et immatériel, en réalité, il est revenu sur un monde de géopolitique, avec ce qui s'ouvre en perspective, c'est à nouveau une balkanisation de l'Internet. Nous n'aurons plus un réseau de communication mondial, porteur de ce mythe de la liberté d'expression mondiale, porteur de ce mythe d'une mondialisation heureuse, mais nous aurons des Internets séparés, plus ou moins mal connectés. Nous avons des gens qui émergent et qui sont, j'aime bien la formule utilisée le 3 septembre par le New York Times, qui dit que Mark Zuckerberg est l'homme non élu qui a le plus de pouvoir aux États-Unis. Alors l'élection, c'est peut-être, c'est parfois problématique. Nous votons pour des gens qui ne tiennent pas leurs promesses, qui font le contraire une fois. OK, mais au moins nous avons choisi, nous avons décidé, nous avons une capacité d'orienter les choses. Mark Zuckerberg, on n'a aucune capacité de le faire aller dans le sens A ou dans le sens B. Hein, donc on est soumis en réalité à la manière dont il organise l'algorithme de Facebook et dont derrière il organise sa propre richesse à son propre service. Quand ça va mal, il est venu rencontrer le président de la République française, il est venu devant le Parlement européen, il va très régulièrement devant le Congrès américain, il s'excuse, il dit « Ah oui, là, j'avais pas prévu le coup, j'avais pas bien vu. Ouais, j'avais pas vu que l'architecture, le choix qui a été fait est un choix toxique. C'est un choix d'irresponsabilité des gens, donc fondamentalement un choix où ce qui va prendre de la valeur, c'est de l'affrontement, c'est de la désagrégation sociale, plus que de la constitution d'amis en réalité. Même si, et c'est là que c'est la ruse la plus importante, même si en face, toute une série de gens s'en servent vraiment pour garder contact avec des amis. Moi, sur mon Facebook, j'ai des tas de gens que je ne vois plus, mais je suis content d'avoir de leurs nouvelles. Et de temps en temps, je fais un petit commentaire pour être sûr que l'algorithme de Facebook va continuer à me donner de leurs nouvelles. Voilà. Donc, il y a un véritable usage de communication par les gens qui ne se rendent pas compte que derrière cet usage de communication, il y a une stratégie médiatique d'appropriation et de pouvoir par... voilà. J'aime bien cette citation de Edward Snowden. Vous savez, Edward Snowden, c'est celui qui a révélé que les services secrets des États-Unis, la NSA, en fait, espionnaient, avaient des tas de méthodes pour installer des logiciels espions dans des téléphones mobiles et espionner en dimension massive tous les Américains. Puis, en fait, même beaucoup de gens dans le monde, puis y compris les dirigeants des pays soi-disant alliés des États-Unis, etc., etc. Donc, depuis, il est très ennuyé, il est en situation contrôlée en Russie. Je vous conseille un film qui s'appelle Citizen 4, hein, qui est très largement disponible sur Internet, où il raconte, Edward Snowden raconte pourquoi il a fait ça. C'est-à-dire pourquoi il est devenu lanceur d'alerte, parce qu'il avait cette information et qu'il ne pouvait plus continuer à vivre en possédant cette information, sachant qu'elle est cachée au reste du monde. J'aime bien cette formule où il dit « Prétendre que votre droit à une sphère privée n'est pas important parce que vous n'avez rien à cacher, c'est rien d'autre que dire que la liberté d'expression n'est pas essentielle car vous n'avez rien à dire. » On a tous quelque chose à cacher et si ce n'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un à côté, c'est ce manifestant de Hong Kong, c'est ce membre de Black Lives Matter, c'est je ne sais pas. Et le fait que chacun se protège, bon, on retrouve notre histoire de masque, hein, c'est voilà, chacun en se protégeant, on protège tout le monde. En défendant la vie privée de chacun, en disant « oui, moi, je ne veux pas qu'on me trace, même si j'ai soi-disant rien à cacher », c'est en fait, on protège les autres. Voilà. Ça, c'est Dana Boyd, une chercheuse très importante sur la logique des médias sociaux. Et elle a écrit ça au lendemain de l'élection de Donald Trump, et où elle dit en substance « nous avons rêvé un monde où la communication créerait une situation complètement nouvelle où tous les gars du monde pourraient se serrer la main, que ça serait une démocratie saine à partir du moment où tout le monde pourrait causer. Et en réalité, on a construit une architecture dans laquelle la haine emprunte le même chemin que le savoir. Mais en même temps, nous avons continué de penser, d'essayer de raisonner comme si ce n'était pas vrai. » Donc il y a là, c'est là aussi une dimension psychologique. Nous ne voulons pas voir que les utopies d'Internet sont en train de se transformer en dystopie. Et pourquoi ? Ben parce qu'il y a vraiment des utopies qui sont actives. Toutes celles dont je vous ai parlé sur la culture, tout ce que je vous disais sur la communication avec des amis avec qui on peut garder le contact, l'élargissement, en fait, de notre réseau, tout ce qui nous fait du bien sur Internet et qui est valable, nous masque la réalité de ce qui est en train de se jouer dans l'invisibilité de la fabrique de connaissances. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on vive l'Internet comme un outil, mais comme un écosystème, c'est-à-dire un monde dans lequel on est plongé. Nous sommes des acteurs d'un monde où il y a une sphère de l'information, un écosystème, un cyberespace, une noosphère, et puis notre monde physique, qui, comme vous le savez, va mal, que la crise climatique est un des enjeux majeurs de votre génération. Peut-être même de la mienne, au rythme où ça va. Donc, il y a là un enjeu majeur pour notre planète. Et en fait, nous avons une sphère de la connaissance et nous sommes plongés, les pieds sur terre, la tête dans le cyberespace, et il faut qu'on apprenne à vivre avec ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à développer une citoyenneté qui soit dans ce monde-là, qui soit dans ce monde où on ne dit pas « il y a un outil informatique et j'y connais rien en informatique, donc je vous laisse les informaticiens le faire ». Non, non, juste une activité de citoyen. Et cette activité de citoyen, c'est ce que moi j'appelle la culture numérique. La culture numérique, c'est en fait comprendre quelle est la place du citoyen par rapport à ce monde numérique. Ce n'est pas forcément de comprendre le code informatique, ce n'est pas de laisser aux techniciens le pouvoir, le nouveau pouvoir des techniciens. C'est au contraire se poser les questions de quelle nouveau type de relation sociale se met en œuvre, quel nouveau type de pouvoir, quel nouveau type d'affrontement, parce que l'histoire, c'est des affrontements. Hein. L'idée qu'il y aurait une fin de l'histoire et que nous vivrons un empire stable et calme, ça, je n'y crois pas du tout, d'ailleurs, et qu'à regarder autour de soi. Donc voilà comment on va se situer comme citoyen à l'intérieur de ça. Et aujourd'hui, pour être un citoyen du 21e siècle, il y a deux questions majeures qu'il faut se poser, la question écologique et la question du numérique, et d'où l'enjeu, à mon sens, de la culture numérique. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là.